Chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esprit, comme l'a vu Maudy Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission hebdomadaire Chronique en débat, une émission qui se veut décryptage de la réflexion de l'ESPER, du planificateur de l'éducation, du philosophe et du sociologue Maudy Johnson sur un sujet socio-éducatif d'actualité. Pour le compte de ce jour, mercredi 14 décembre 2022, la réflexion du chroniqueur Maison s'intitule « Le pouvoir de l'argent ou l'argent du pouvoir ». Je vous propose à présent de suivre « Le pouvoir de l'argent ou l'argent du pouvoir » avec Gloria Adivesole, prête-voix de Maudy Johnson.
Le pouvoir de l'argent ou l'argent du pouvoir. L'argent ne fait pas le bonheur peut-être, mais il fait quelque chose de plus important dans le monde, à savoir le pouvoir. Je me souviens de mon cousin du village, apparemment simple d'esprit comme moi, qui pendant longtemps après chaque repas copieux arrosé d'un puissant vin de palme se demandait « Mais pourquoi ces politiciens africains cherchaient-ils à amasser autant d'argent ?» Parcourant plusieurs pays africains, je me rendis en fin de compte d'une évidence. Les grands politiques ne cherchaient à amasser de l'argent ni pour les plaisirs qu'ils procurent, ni pour leurs besoins. C'était juste un moyen pour atteindre un but, acquérir le pouvoir. Mieux, ils cherchent à asphyxier tous ceux qui ont l'esprit d'entreprise et à terme peuvent devenir des adversaires de pouvoir. Ainsi, ils se créent un système de captation de ressources qui n'a qu'un but dans lequel la richesse n'est qu'un moyen pour acquérir, maintenir et perpétuer le pouvoir. En fait, par-delà les petites combines de nos dirigeants qui peinent à mettre en place les éléments de pouvoir, il est important de donner un exemple édifiant. Regardez et appréciez comment le Qatar, petit par sa superficie, est devenu grand par le pouvoir qu'il a acquis grâce à ses moyens financiers colossaux. Le Qatar a voulu la Coupe du Monde et l'a obtenue par tous les moyens qu'il a mis en place. A-t-il corrompu les voies de désignation? A-t-il surutilisé les ouvriers comme du bétail? A-t-il corrompu des opinions politiques au niveau de la Commission européenne, sans compter qu'il a décidé de changer la date de la Coupe du Monde? Si ce dernier point est sûr, les autres restent des suppositions parce que le Qatar en a décidé ainsi par son pouvoir. En réalité, il est évident qu'on assiste au pouvoir de l'argent qui donne du pouvoir tout court. Ainsi, on se rend compte que ce qui guide le monde, ce sont les intérêts symbolisés par l'argent non seulement en tant que moyen, mais aussi en tant que fin. Alors que personne ne nous mente et ne nous induise dans cette erreur monumentale qui consiste à nous détourner de l'argent et à nous inculquer le culte de la pauvreté matérielle et ce type misère morale qui tend à nous réifier. Un seul auteur a clamé à la fois ce pouvoir amoral de l'argent et l'aliénation des êtres par des interprétations religieuses tendancieuses qui promet le ciel aux croyants et garde la terre et ses richesses pour les pasteurs et leurs puissants commanditaires. C'est Karl Marx. Ceci lui a valu le redoutable honneur d'être banni du pays qui en réalité l'a le plus lu et a compris que la propagation de ses idées allait ouvrir les yeux à son peuple notamment. Ainsi, la pire injure aux États-Unis est communiste. Mais alors, pourquoi les pays africains n'ont-ils pas pu arriver à ce degré de moyens et donc de pouvoir? Il y a quelques pays qui, à l'évidence, sont de loin potentiellement plus riches que le Qatar. C'est peut-être presque tous ces petits pays d'Afrique, mais sûrement la RDC, le Mali ou le Niger. Mais ils n'y sont pas parvenus. On me dira qu'on a tué leurs dirigeants en fomentant des coups d'État. En même temps, les obédiences religieuses sont venues au secours des politiques impérialistes, sans oublier toutes les falsifications historiques, idéologiques à la gloire du blanc civilisateur. La surinterprétation de la Bible a fait le plus mal. Et Jomo Kenyatta l'a très bien exprimé. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Alors toutes les ressources de nos sols et de nos sous-sols continuent à appartenir à l'extérieur. Comment et pourquoi n'avions-nous pas pu faire comme le Qatar et détenir le pouvoir qui fait plier et mordre la poussière et qui ne donne que la solution d'une logorée verbale intarissable et honteuse? C'est vrai, le pouvoir de l'argent est passé par là. Savez-vous que 10 000 euros qu'on pourrait glisser dans une poche font déjà presque 7 millions de francs CFA? On a très tôt fait des valises de peu. Et chaque fois, on ajoute des nouveautés que nos petits pays ont de la difficulté à contrer. Au moment d'une grande découverte d'un gisement important dans un de nos pays, les djihadistes ont remplacé les coups d'État trop voyants pour nous mettre en haleine. La véritable question demeure. Comment faire comme le Qatar pour avoir et produire du pouvoir? Nous sommes les seuls au monde qui refusent de gagner des millions car notre lecture de la Bible ne nous encourage pas à oser et notre éducation consiste à nous apprendre la bêtise. Voilà les deux problèmes majeurs. Trouvons la solution dans une lecture revisitée de la Bible et dans une réelle éducation qui fait corps avec notre environnement et nos valeurs.
Merci à vous, Gloria Adjivé Sodé, pour nous avoir livré la matière, la réflexion, la chronique de Maudie Johnson de ce mercredi, intitulée « Le pouvoir de l'argent ou l'argent du pouvoir ». Pour nous aider à mieux comprendre la réflexion du chroniqueur, pour en décoder le message, ou si vous préférez la leçon de vie, deux invités en studio. En studio, donc, pour faire le débat avec moi ce matin, Lazare Avado et Raoul Satondi, tous deux psychologues cliniciens de formation. Lazare Avado, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Roumiad.
Juste en face de vous, votre collègue Raoul Satondi. Raoul Satondi, bonjour. Bonjour. Et merci de prendre part au débat sur la chronique, toujours.
Bonjour, merci, le plaisir est partagé.
Heureux de vous accueillir dans notre studio pour nous aider à décortiquer cette chronique de Maudie Johnson que vous pouvez également retrouver dans le journal Éducation paru hier, mardi 13 décembre 2022. Nous allons donc faire ce débat avec vous, chers amis Raoul et Lazare. Raoul Satondi, vous venez justement de suivre la chronique de Maudie Johnson rendue ici tout à l'heure même par Gloria Adjivé sur les réactions.
Je pense que c'est une question d'actualité et le chroniqueur fait bien de soulever une problématique qui mérite des réflexions à plusieurs niveaux. Et j'apprécie à justice que le chroniqueur a abordé plusieurs aspects en rapport avec cette problématique. Je pense que dans la suite de l'émission, nous aurons le temps de venir sur chaque aspect et puis d'en tirer la synthèse.
Lazare Avado, vous venez vous également de suivre la chronique de Maudie Johnson rendue par Gloria Adjivé Sodé. Quels sont les premiers commentaires auxquels peut a priori renvoyer cette chronique-là?
Merci mon cher Romiad, merci à mon aîné Raoul Satondi, c'est mon aîné dans la formation et un ami en plus. Cette chronique parle d'une actualité qui fait encore plus de poids aujourd'hui dans notre jeunesse. On parle toujours de la jeunesse, le pouvoir de l'argent. L'argent qui gagne tout terrain aujourd'hui sans la moindre, comment dire...
Sans le moindre effort.
Effort, ça c'est, ce n'est même pas ça ce que je voudrais dire, c'est... On n'a plus peur de faire de n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et ça doit attirer l'attention. Et ça, c'est déjà la jeunesse. Et c'est du niveau le plus bas pour le niveau le plus grand et le sommet, le pouvoir. C'est beaucoup d'éléments, c'est beaucoup de choses. Je crois que nous avons... Le temps ne pourra même pas suffire pour décortiquer de long en large. Voilà.
Raoul Satondi, l'argent ne fait pas le bonheur, relève le chroniqueur dans sa chronique. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue fortement au bonheur, n'est-ce pas?
Ah, effectivement, c'est une assertion très évidente. Alors, il faut d'abord se dire qu'il faut aborder l'aspect de la question de l'argent fait le bonheur ou il ne fait pas le bonheur, ou il contribue au bonheur, sous plusieurs aspects. Un premier aspect, c'est au niveau individuel, ensuite au niveau communautaire, avant de l'envisager au niveau d'une nation et mettre en lien les aspects liés au pouvoir. Au niveau individuel, il faut le contextualiser. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation où le vecteur principal pour pouvoir avoir accès à la consommation, c'est de l'argent. Quand je dis consommation, ce n'est pas ce que nous mangeons seulement. Si vous voulez bien dormir, c'est-à-dire avoir une maison à vous, il vous faut de l'argent. Vous voulez circuler dans un certain nombre de conforts, il vous faut de l'argent. Vous avez des problèmes de santé, il vous faut de l'argent. Même le sentiment le plus magnifique que nous avons, qui est l'amour, et si à la base c'est une attraction mutuelle, pour l'enjoliver, pour rendre ce sentiment très agréable et mieux le vivre, il faut un minimum d'argent. J'ai pour habitude de dire au cours de mes formations que le simple nécessaire vit plus longtemps et le superflu grisonne trop vite. Alors le rapport aujourd'hui avec l'avoir est un déterminant important dans la vie des individus, au point où le manquer provoque systématiquement un déséquilibre. J'ai dit à une formation la dernière fois que quelqu'un qui a 10 000 francs en poche et celui qui n'a que 1 000 francs en poche, quand vous les voyez marcher, vous comprenez que les deux n'ont pas la même façon de marcher parce qu'il y a un qui marche de manière beaucoup plus sûre parce qu'il a un certain nombre de besoins, un minimum de besoins qu'il peut régler avec l'argent. C'est dans un contexte de société de consommation où il faut tout payer et l'argent est le facteur qui permet de le payer. Aussi est-il que il faut mieux analyser les sociétés africaines. Dans les sociétés africaines, la plupart des individus n'ont pas encore atteint un certain niveau de besoin pour comprendre qu'à ce niveau de besoin, il n'y a pas que l'argent qui compte. Ils sont encore dans un niveau plus bas. Les gens ont beaucoup besoin de se lotir, ont besoin d'être éduqués, ont besoin de se soigner, ont besoin de dormir. Vous comprenez que ce sont des besoins basiques que l'argent forcément suffit. Et l'argent forcément peut amener à les régler. L'autre chose est que nous avons stratifié la société d'une certaine manière en rapport avec le niveau social. Quand on dit votre niveau social, il a directement rapport avec le gain que vous pouvez avoir dans ce niveau social-là pour pouvoir vivre d'une certaine manière. Si bien que l'argent est un déterminant important aujourd'hui d'un point de vue individuel et il se transpose également dans ce qui est communautaire. Et donc, dans l'appréciation communautaire sociale, si vous n'avez pas ce statut social qui induit un gain matériel et financier, pour pouvoir assumer ses charges, faire les représentations communautaire qu'il faut, vous n'êtes pas bien vu, vous n'êtes pas bien perçu, alors que le vécu et la vie d'un individu n'est pas que cela, il n'est pas que lié à l'argent. Les aspects maintenant qu'évoque maintenant le chroniqueur et qui sont pertinents, c'est au niveau étatique, qui est en lien avec une question réelle de pouvoir. En réalité, ce n'est pas l'argent qui fait le pouvoir, c'est la perception que les gouvernants ont du pouvoir qui les amène à croire que la captation de l'argent leur permet de conserver, de gérer et de pérenniser leur pouvoir, soit par le biais de la corruption, soit par le biais de la manipulation et autres. Mais quand vous avez des ressources matérielles, vous voyez par exemple les sous-sols des pays africains sont riches, c'est déjà un aspect de pouvoir puisque la richesse de votre pays n'est évaluée qu'à partir de ce sous-sol-là ou de la production locale. Alors cela vous revient à vous de le valoriser et de pouvoir le monnayer. Mais lorsque vous le monnayez à coup d'argent, c'est à coup de dollars, à coup d'or ou à coup de francs CFA dans notre contexte, les retombées, comment vous le répartissez sur la communauté? Comment vous faites en sorte à ce que la communauté tout entière bénéficie de cela au point à satisfaire leurs besoins basiques, élémentaires? Hey, écoutez, un parent d'élève qui est sûr que l'école est gratuite, les fournitures scolaires sont remises aux enfants gratuitement, qu'il a l'assurance que ses enfants peuvent faire des études universitaires et les études universitaires sont de haute qualité dans son pays, vous comprenez qu'il n'a pas la même problématique en rapport avec l'argent que celui qui doit payer tout ça. Or, ces aspects devraient pouvoir être garantis par les pouvoirs publics au regard de la production collective, de la production de toute la communauté, des richesses du pays. Ce qui n'est pas souvent le cas dans nos pays parce que, bien entendu, et nous sommes dans un contexte où il y a une forme de confrontation entre les systèmes parce que les États sont et potentiellement en concurrence d'une certaine manière. Et dans ce jeu de dominant-dominé, les autres États ne peuvent pas vous permettre, au regard de toutes les ressources que vous avez, de pouvoir vous développer. Et donc, il faut un niveau psychologique, un niveau mental, un niveau social, une perception autre du développement pour permettre à un dirigeant ou à des dirigeants ou à l'ensemble des cadres d'un pays de se positionner pour gérer la question du lien avec l'argent, pour permettre à leur pays d'être développé et donc de pouvoir banaliser les questions en rapport avec l'argent, le matériel et autres. Si vous êtes dans un pays où on peut vous offrir un véhicule chaque année, votre préoccupation ne serait pas de courir pour avoir un véhicule, mais votre production serait carrément comment je fais pour pouvoir maintenir mon état, pas mon travail, dans les mêmes conditions qu'il faut. Et donc, le pouvoir de l'argent dont on parle est une façon de faire miroiter, d'orienter le regard sur la course vers l'argent, et alors que les vraies réalités sont là. C'est une question de perception, c'est une question de façon de voir et d'approche en matière de développement. Je vais m'en arrêter là pour permettre à mon collègue d'opiner un peu sur la question pour enrichir le débat.
Lazare Avado, vous venez d'écouter le développement, hein, le développement scientifique de votre confrère Raoul Satondi. Vous constatez avec moi, comme il a dit, que la société est stratifiée et donc l'argent ou rien. Du coup, le politique va à la recherche de l'argent, recherche le pouvoir de l'argent pour maintenir dans les liens de la domination le peuple, je dirais le bas peuple qui trime, qui a des difficultés à subvenir à ses besoins.
Merci. Mon collègue Raoul a brossé, sinon décortiqué beaucoup d'aspects de ce sujet-là, de cette chronique. Je voudrais quand même revenir sur certains aspects. Les besoins basiques dont il a parlé et qu'il faut reconnaître, qu'il faut assouvir, en rapport à la pyramide de Maslow que nous connaissons très bien. La réalisation de soi qui est au sommet, comme mon collègue l'a dit, c'est lié à la perception aujourd'hui que nous, citoyens, les gouvernants, ont de l'argent. Je suis tel, je suis à tel niveau, c'est en fonction de ma capacité financière. En fait, c'est une question... Permettez-moi de revenir un peu sur un document que j'ai eu le plaisir de revisiter, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, avant de venir ici. Le troisième manuscrit de Karl Marx. C'est juste un extrait, si vous permettez. Je vais juste lire. Hein. Chespie dans Timon d'Athènes. Il dit « de l'or jaune, étincelant, précieux, non, Dieu du ciel. » Je ne sais pas, un soupirant frivole, pardon, je ne suis pas. Ce peu d'or suffirait à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l'injuste, noble l'infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est juste un extrait, hein? Celui qui est noir à cause de l'argent peut devenir blanc. L'injuste, comme on le voit dans nos sociétés, ils investissent de l'argent pour se blanchir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est en réalité la préoccupation de la chronique. Comment est-ce que la société aujourd'hui est en train de déifier l'argent à la place de l'humain? L'humain est en train de céder l'espace au pouvoir de l'argent. Et jusqu'à c'est à tous les niveaux. Les jeunes ne veulent plus, comme la dernière fois on l'a dit ici, investir, c'est-à-dire produire, hein, fournir l'effort, hein, pour avoir les résultats de ces efforts-là. Mais passer par des moyens,
des raccourcis
pour avoir de l'argent, vous voyez, pour pouvoir prétendre à ce statut social dont a parlé mon collègue tout à l'heure. C'est une société qui est en dégringolade. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons. Beaucoup d'aspects. Et quelle est la place du psychologue dans tout ça? C'est ça justement que nous, professionnels, nous devons de temps en temps dire pour attirer l'attention, pour sonner la cloche. Le psychologue doit dire, mais l'humain, il est quoi? Quelle est sa place dans cet environnement qui est de temps en temps de plus en plus pourri par le matériel, par le « me voici, je suis ci, je suis ça », le statut social. Et nos ressources. La dernière fois, j'ai suivi, ça c'est pas en direct, hein, c'est un concert d'un artiste que vous connaissez très bien, que je ne vais pas citer le nom, c'est un Ivoirien, Reggaeman, qui était en concert en Europe. Il a dit, l'Afrique, le continent qui a toutes les ressources du monde, et c'est le continent où il y a tous les plus pauvres de ce monde. Est-ce que c'est compréhensible ça? Simplement parce que vous avez vu la similitude qu'il a fait de Qatar, ce qui se passe là-bas actuellement.
Absolument, on va y revenir.
Voilà, ce petit pays qui, parce qu'il a su capter et valoriser ses ressources, a autant de pouvoir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Pour l'agriculture, nos agriculteurs, nos paysans, on continue d'utiliser la roue, alors que dans certains pays, ça a été mécanisé. Ainsi de suite. Les plus grosses usines de fabrique de ci, de ça, pour soigner l'Africain, a beaucoup d'éléments pour pouvoir se soigner. On peut créer l'état d'usines pour fabriquer tout ce dont on a besoin ici pour nous soigner. Mais pourquoi on n'a pas pu être à ce niveau-là aujourd'hui? C'est là la question du politique, sa place, au lieu de capter d'argent pour dominer, devrait plutôt penser à comment faire le développement de l'humain, comment investir pour que l'autre qui est là puisse se sentir à l'aise, travailler pour construire davantage la nation, pour construire davantage le pays.
Raoul Satondi, mais c'est justement à la recherche justement de cet argent-là par les jeunes cadres qui veulent également s'offrir, vous l'avez dit, un statut social parce que la société est stratifiée, vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on veut être comme l'autre, on veut avoir plusieurs maisons en location, on veut élever son statut social que lorsqu'on est cadre, on est nommé à un poste de responsabilité, on court pour détourner parce que l'argent, on veut l'avoir à tout prix pour réaliser ses besoins. Même quand on parle pas forcément de besoins vitaux, mais des besoins qui relèvent de l'ambition qui ne correspond pas avec leur niveau de vie, leur train de vie et leur statut social.
Alors, vous posez un problème très important. Parce que
vous n'êtes pas sans savoir que les détournements se multiplient. Vous avez eu beaucoup de cadres qui ont fait la prison pour détournement de deniers publics, et pas seulement au Bénin, dans la sous-région, au-delà des frontières béninoises aussi.
La question de l'avoir, c'est-à-dire avoir de l'argent, le gain, et la question de son accumulation sont deux choses différentes. Avoir de l'argent en strict minimum pour pouvoir régler ses besoins, vivre dans un confort normal, le confort dans lequel un être humain devrait pouvoir vivre, et accumuler de l'argent sans qu'on ne l'ait mérité est une autre disposition mentale. Et ça, il faut faire la différence. Cette tendance d'accumulation qui part d'abord de ce que les dirigeants font, parce que dans un passé récent, on n'est pas sans ignorer que la plupart des dirigeants africains ont leur compte en Suisse et tout ça, et c'est bourré de fric. Ils ont acquis des biens, des meubles, des immeubles dans d'autres pays pour finalement aboutir à quoi? À l'appauvrissement dans leur propre état. Ils n'ont pas fait les voies, ils n'ont pas fait de grandes universités, ils n'ont pas permis au salaire des travailleurs de s'améliorer. Ils n'ont pas amélioré ni transformé leur pays en matière de production agricole, industrielle, pour pouvoir gagner encore une plus-value. Et quand vous donnez l'exemple du Qatar, le Qatar est un pays pétrolier. Et donc, il s'agit du pétrodollar. Il a fallu que les Qataris, donc la plupart des dirigeants, malgré qu'il y ait des gens immensément riches, la plupart des dirigeants disent, mais tiens, les revenus que nous avons du pétrole, nous devons l'utiliser pour que au moins un Qatari ait le minimum qu'il faut. J'ai lu une documentation sur le Qatar. Je vous dis qu'il y a 0,02% de taux de chômage.
Absolument, je confirme.
Vous voyez, il y a 0,02%. Ça veut dire que c'est un pays qui n'a pratiquement pas de chômage. Quand vous allez à l'université au Qatar et quand vous allez même dans l'université elle-même, vous voyez l'équipement, les enseignants qu'on vous envoie. Mais ça vous rend beaucoup plus performant. Vous pouvez créer. Quand vous travaillez, Et vous avez une dotation de vivres. Donc la question alimentaire, tout ça, c'est réglé. Pourtant, vous travaillez, vous avez un salaire. Et donc, votre préoccupation majeure, ce n'est pas de vendre le Qatar pour pouvoir vous acheter des immeubles à Paris, à New York et autres, mais c'est simplement de bien faire votre travail parce que le minimum qu'il vous faut est déjà là, est garanti et existant. Ici, ce minimum-là est détourné et par les chefs d'État, et par les ministres, et par leur directeur, par leur DG, ensuite par le plus petit cadre. Parce que l'exemple qui est donné amène les uns et les autres à adopter un comportement en phase avec celui qui est devant, qui montre l'exemple et le modèle. Alors, les jeunes Africains aujourd'hui ne sont pas des gloutons du gain facile, contrairement à ce que l'on croit. Beaucoup de jeunes Africains créent, produisent, se battent au jour le jour. Vous pouvez aller aujourd'hui dans les rues, dans les ruelles, au marché d'Antokpa, n'importe où. En tout cas, vous voyez des jeunes actifs suer, se battre, travailler. Mais ce sacrifice, ces efforts qu'ils fournissent, est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'ils auront comme gain parce que le système ne le permet pas? Pendant que ce dernier se tue, se suit, fait tout ça pour pouvoir gagner 1000 francs par jour, il y a un monsieur qui est peinard quelque part qui détourne 1 million, 2 millions la journée sans pouvoir fournir d'efforts. Et ça, c'est au prix des sacrifices de toute la communauté. Parce que ces ressources-là, c'est les impôts collectés, et ce sont ces ressources qu'on devrait pouvoir utiliser, n'est-ce pas, pour investir dans des secteurs, pour garantir à tout le monde. C'est pourquoi je disais que c'est une disposition mentale à dissocier. La plupart des gouvernants africains ne se sont pas orientés fondamentalement vers le développement. Et il y a une forte propension de l'Africain à être corrompu. Par exemple, si on voit que vous êtes en train de mener un développement, que vous dites aujourd'hui que bon, l'or que nous avons doit être échangé contre ceci, et voilà ce que nous devons faire avec ceci. On va voir un autre de vos frères pour lui dire, mon frère, si tu le chasses du pouvoir, et tu auras ça, tu auras ça, tu auras maison en France, tu auras maison ceci, cela. Et il se met dans la danse, il chasse son frère du pouvoir, il arrive, il met un système de privilégiés, un autre, encore un autre, ce dernier également le chasse du pouvoir. Et donc, la question en lien avec l'argent est une question de disposition mentale, fondamentalement de disposition mentale. Parce que
Est-ce qu'au-delà, ce n'est pas aussi une question d'éducation?
Mais c'est l'éducation qui forge le mental. Parce que avant que votre mental ne soit fixé et fort, vous partez dans un processus éducatif. Qui parmi nous ici est capable d'être à un poste donné et d'aller dire chez lui au village que moi, tel que les choses sont en train d'être faites là, moi je démissionne, et les parents vont lui dire, mon frère, il faut démissionner. On va lui dire, mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. C'est là que tu es et que nous avons un peu de revenus. Donc reste là où on t'a mis. Reste là où on t'a mis, sois sérieux à ton chef pour pouvoir avoir les gains, les revenus. Alors que votre chef est en train de siphonner les deniers publics, et par rapport aux miettes que vous gagnez et vous permettez à votre progéniture ou à votre famille d'être plus à l'aise, on vous met dans une position de minoritaire. Combien de gens aujourd'hui suivent des gens qui ont une bonne vision de développement? On ne vous suivra pas, mais on dira, bon, celui qui peut nous partager 1000 francs, nous donner 5000, 10 000 francs, c'est celui-là qui est le meilleur parce qu'il en a et il en a à partager. Donc, on a mis en place un modèle éducatif qui est orienté prioritairement vers l'argent. Parce que quand vous formez, par exemple, les jeunes, et pour la plupart, vous les fonctionnez avec un mental pour intégrer la fonction publique, avec pour principe qu'il aura droit à un salaire mensuel régulier, et même s'il allait à retraite, il continuera à gagner un peu de salaire, quelque chose, jusqu'à ce qu'il décède, vous l'orientez carrément vers une approche orientée typiquement vers l'argent.
Ce n'est plus une théorie, hein, Lazare Avado, ce n'est plus aujourd'hui une théorie. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas droit au chapitre dans la société. Personne ne s'intéresse à vous. Vous prêcherez dans le désert. Personne n'a votre temps dans la République. Vous serez d'accord avec moi que c'est une évidence qu'on ne peut nier ici, n'est-ce pas?
C'est évident. Néanmoins, nous sommes dans une société capitaliste. Et le communisme qui a permis à un moment donné d'éduquer le citoyen à construire et à penser à son prochain, je dis bien, penser à son prochain dans son agir, à déserter les lieux. Parce que Karl Marx a été combattu, comme l'a dit le chroniqueur dans le document justement, dans sa chronique. Et cette société aujourd'hui se nucléarise de jour en jour. La famille qui était une famille élargie, où l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, pouvait avoir un regard sur l'éducation de l'enfant, de jeune frère, ainsi de suite. Tout ça est en train de partir. Or, nous sommes, nous, Africains, dans une solidarité communautaire qui ne dit pas son nom et qui demeure dans certaines localités une réalité. Et vu ce que vous venez de dire, la question que vous venez de poser, l'avoir, l'argent qui a pris le dessus sur tous les plans, le petit enfant, sinon le jeune qui a peut-être 25 ans dans une localité et qui a un peu commande même les plus vieux. Et comme l'a dit mon collègue, les plus vieux qui sont censés incarner la sagesse, vous voyez le niveau là, la sagesse, pour garantir la dignité, pour perpétuer de génération en génération cette éducation, cette valeur traditionnelle là, obéissent à ce jeune de 25 ans qui a l'argent. Quel est, vous voyez le niveau, l'influence de ce gain-là sur l'éducation. Lui, il va donner quel type d'éducation? Permettez-moi, j'étais avec un collègue hier, la nuit, autour de 21h30, et il me disait qu'il était quelque part, et une petite famille, avec les enfants et tout, ils sont là, et dans une buvette, dans un bar, les enfants dansaient jusqu'à 23h et quelques. Et c'est le DJ qui a dû dire, mais ces enfants iront à l'école un dimanche soir. Ces enfants iront à l'école demain. Hein? N'oubliez pas, il a commencé à attirer l'attention des parents sur le fait que à 23h30, des parents sont encore dans un bar avec leurs enfants en train de danser un dimanche soir. Ça, c'est très profond. Et voilà la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est compliqué. C'est compliqué que les valeurs que l'Afrique incarne en termes de dignité humaine qui puisse
être en train d'être bafoué
jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce degré-là.
Raoul Satton dit très rapidement, mais hier, l'argent n'était pas autant divinisé hier à aujourd'hui. Quand vous prenez, par exemple, l'équipe nationale du Dahomey à l'époque, il jouait pour les couleurs nationales. Il n'y avait pas autant d'argent qu'on engloutit dans le football aujourd'hui par rapport à hier. Les gens jouaient juste par patriotisme, pour défendre les couleurs, pour hisser les couleurs nationales. Mais aujourd'hui, l'argent est dans tout. L'argent est dans le football, l'argent est dans la politique, l'argent domine la cité. Comment ça se trouve? Comment peut-on expliquer cette mutation-là d'hier à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a en temps changé?
Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que la structuration du football depuis un certain nombre d'années est orientée beaucoup vers l'argent, la structuration du football elle-même. Et donc, si vous êtes un pays, vous devez pouvoir vous y adapter. Et les athlètes, eux aussi, évoluent en fonction de ce registre-là. Si bien que certains priorisent ce registre par rapport au patriotisme. Encore que le patriotisme est-il encore une valeur partagée par tous les compatriotes? Cela n'est pas encore évident. Cela n'est pas encore évident parce que quand vous imaginez des personnes qui, déjà dans leur travail ordinaire, gagnent des centaines de millions et tout ça, et quand ils viennent en équipe nationale, ils revendiquent encore un certain montant avant de pouvoir jouer, ça veut dire que la question de l'argent passe avant les questions patriotiques. Et donc, c'est toute une question d'éducation, c'est tout un système à déconstruire et à reconstruire. Un système à déconstruire, à reconstruire, parce que à qui vous allez aller dire aujourd'hui que je viendrai travailler gratuitement et je viendrai faire ceci gratuitement? Combien de personnes vous trouvez dans vos activités pour vous faire du bénévolat sans quelque chose? L'intérêt collectif est-il encore quelque chose qui a pignon sur rue? Et toutes ces questions posent problème.
Mais qu'est-ce qui peut justifier tout ça? Cette démotivation, ce découragement, cette fatigue sociale, qu'est-ce qui peut justifier ça?
C'est la gouvernance. C'est la gouvernance dans tous les pays, dans tous les pays africains. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un avec qui vous avez échangé et vous avez fait les mêmes classes et tout ça, et tout, vous avez même commencé par travailler, le jour où il devient parlementaire ou il devient ministre, quand vous voyez la fulgurance avec laquelle son vécu a évolué, mais vous posez la question, où vous voyez que vous êtes dans la même structure et à des postes différents, et quelqu'un a un poste et vous voyez un peu le caractère un peu arrogant avec la laquelle il y a une accumulation de biens à cette vitesse-là, ça ne vous permet plus de vous engager comme cela se doit. Et donc, toutes ces questions méritent d'être revues et d'être d'une certaine manière plafonnées pour permettre quand même à la communauté tout entière de pouvoir bénéficier des fruits. Sans quoi, la question d'une tendance orientée typiquement vers la voie est beaucoup propre aux communautés dont les besoins ne sont pas satisfaits.
En deux mots, nous allons très rapidement disséquer quelques extraits que j'ai choisis dans la chronique « Le pouvoir de l'argent ou l'argent du pouvoir » de ce mercredi 14 décembre 2022. Des extraits, des séquences qui m'ont particulièrement séduit. Il dit, citation, Maudy Johnson, bien évidemment le chroniqueur, « En fait, par-delà, les petites combines de nos dirigeants qui peinent à mettre en place les éléments de pouvoir, il est important de donner un exemple édifiant. Regardez et appréciez comment le Qatar, petit par sa superficie, est devenu grand par le pouvoir qu'il a acquis grâce à ses moyens financiers colossaux. Le Qatar a voulu la Coupe du Monde et l'a obtenue par tous les moyens qu'il a mis en place. A-t-il corrompu les voies de désignation ? A-t-il surutilisé les ouvriers comme du bétail ? A-t-il corrompu des opinions politiques au niveau de la Commission européenne, sans compter qu'il a décidé de changer la date de la Coupe du Monde. Si ce dernier point est sûr, les autres restent des suppositions parce que le Qatar en a décidé ainsi par son pouvoir. C'est l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes en pleine Coupe du Monde et vous savez, vous avez appris tout ce qui a entouré l'organisation de la Coupe du Monde. Vous avez également écouté tout récemment le président de la FIFA qui a dit qu'il ne sait pas par quel miracle le président de l'UEFA, le président Platini, a attribué l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. On parle de corruption, on parle également de morts d'ouvriers ayant travaillé dans les stades pour leur construction. Et puis, on parle de changement de la date de la Coupe du Monde. On dit que le pouvoir, on s'incline devant le pouvoir d'achat, semble-t-il dire Maudy Johnson dans sa chronique, Lazavado.
Mon frère, cher ami, vous savez très bien que le football, c'est un milieu à part. Qu'on le veuille ou non, c'est un milieu à part. C'est une institution qui s'est installée et qui a ses caractéristiques à part. Et il est difficile à des néophytes comme nous d'avoir des informations fiables. Une chose est sûre et certaine, ça brasse de l'argent. Ça, c'est clair. L'argent circule suffisamment. Et même les journaux parlent de mafia au niveau du monde football.
On va prendre la réaction de vous Raoul.
Donc ça veut dire beaucoup de choses déjà. Voilà.
On va prendre la réaction de Raoul.
Sur cette question, je pense que le Qatar, par son organisation interne, par son organisation politique, s'est donné de l'influence, s'est donné du pouvoir. Elle a le pouvoir financier, elle a un dispositif organisationnel et elle s'est dotée de moyens de persuasion nécessaires pour pouvoir avoir cette Coupe du Monde. Comme pour dire, lorsque un État s'organise et prend cette disposition, elle a les leviers nécessaires pour pouvoir persuader ceux qui sont en face d'elle pour bénéficier de ceux dont elle devra bénéficier. Chaque État peut réaliser ce qu'elle veut si elle se prend au sérieux, si elle met en place les dispositifs nécessaires et qu'il faut.
Un autre extrait. Il est évident qu'on assiste au pouvoir de l'argent qui donne du pouvoir tout court. Ainsi, on se rend compte que ce qui guide le monde, ce sont les intérêts symbolisés par l'argent, non seulement en tant que moyen, mais aussi en tant que fin. Fin de citation.
Bien entendu, les intérêts guident le monde. Nous avons tous l'habitude de le dire. Et encore, entre États, ça guide plus le monde. Les intérêts guident le monde. Aujourd'hui, il ne faut pas le cacher. C'est pour ça que nous devons éduquer nos enfants à l'intelligence financière, les éduquer à l'intelligence sociale, les éduquer également à avoir une grande capacité de résilience et à être moins corrompus.
Merci. Ce sera votre conclusion.
Je dirais,
Avado, que faire aujourd'hui?
Je dirais un mot de fin que nos gouvernants ont une lourde responsabilité, celle de la répartition équitable dans la mesure du possible de la richesse au niveau national, afin que nos communautés puissent véritablement bénéficier elles aussi, même dans les fins fonds du pays, de cette richesse-là, pour éviter tout ce qui est lié à l'exode rural, à la déperdition scolaire et tout un ensemble de choses et à la cassure de l'éducation. Et que cette problématique de du pouvoir de l'argent puisse véritablement être autrement perçu. Et je crois que c'est seulement à cette condition que nos communautés peuvent se relever ensemble.
Une question conclusive à vous deux. Les peuples africains ont-ils des raisons d'espérer encore? Est-ce que l'espoir est permis?
Bien sûr, l'espoir est permis puisque tout n'est pas perdu. Dans ce lot d'intelligentsia, il y a des gens qui croient que tout est possible encore, qu'on peut se relever.
L'espoir est permis.
À quelles conditions les dirigeants africains n'ont pas changé de mentalité?
Non, les jeunes africains, ils travaillent. Et votre émission, en plantant comme décor ce sujet, c'est pour éclairer davantage les uns les autres à comprendre qu'il y a mieux à faire dans un pays comme le nôtre ou dans des pays comme des pays africains. Il y a mieux à faire et il ne faut pas être dans ce fixisme sur typiquement l'argent, mais il y a des choses qui peuvent nous amener à avoir du pouvoir, à être plus influent et à vivre mieux.
Merci beaucoup à vous, Raoul Satondi. Merci également à vous, Lazare Avado. Vous nous dites ainsi que l'espoir est permis pour les peuples africains. Le pouvoir de l'argent ou l'argent du pouvoir. Eh bien, c'est le thème de la chronique de ce jour, mercredi 14 décembre 2022, que nous avons décortiqué avec nos deux invités en studio. Nous n'avons pas le mérite d'avoir évacué le sujet ou d'avoir fini avec les réflexions que suscite ce sujet, mais nous avons le mérite quand même de susciter le débat. Le débat va se poursuivre chez vous, dans vos bureaux, dans vos maisons. Le débat va se poursuivre surtout au niveau des gouvernants africains pour un changement de paradigme afin que l'Afrique, les pays africains demain, trichent un peu le modèle de gouvernance du Qatar pour que nous puissions avoir 0,02% de taux de chômage et que l'Afrique se réveille avec ses ressources minières pour se développer. C'est l'essentiel à retenir des propos de nos invités qui nous ont aidés à faire ce débat ce matin. Un sincère merci à Lazare Avado. Un sincère merci également à Raoul Satondi, tous deux psychologues cliniciens de formation qui ont accepté de faire le débat ce matin avec nous. C'est fini pour la chronique en débat de ce mercredi 14 décembre 2022. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Partie technique Ferdinand Zamba, réalisation Gloria Adivesode, production Rosalie Hungbo, Elvis Paté, présentation Romuald Logbo. Merci à Ulrich Vital à Rotondi qui est resté dans son coin pour assurer la coordination éditoriale. Maudi Johnson et toute l'équipe de la chronique en débat vous retrouvent mercredi prochain, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro. À très vite.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esprit, comme l'a dit Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.
Continue seul ton chemin, j'irai seul.